Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, Jeanne revient, épisode 2, Le diable est dans le détail. Une série proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir. Avec Jeanne revient, nous vous proposons une série en 4 épisodes, diffusée chaque vendredi, et ce jusqu'au 8 mars. 4 fictions qui nous racontent, de la fin des années 60 à aujourd'hui, l'histoire du Front National et de la famille Le Pen. À moins que cela ne soit l'histoire de la famille Le Pen et du Front National. Peu importe, les deux sont totalement imbriqués. Voici donc un résumé de cette série en quelques lignes. Les productions Maglan se lancent dans un film consacré à la saga familiale Le Pen. Mais une question se pose d'emblée, faut-il en faire un documentaire ou une fiction? Pas simple. D'ailleurs, le tournage tourne au naufrage, les tensions sont trop fortes, mais c'est l'occasion de replonger dans près d'un demi-siècle d'histoire du Front National, en soulignant ce mélange si particulier des liens politiques et familiaux, ces années de provocation, de guerre, des clans, de trahison à travers les trois générations de dirigeants, Jean-Marie, Marine et ses sœurs, Yann et Marie-Caroline, et puis Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal tout court aujourd'hui. Au noyau dur, et pour compléter la galerie des portraits, viennent s'ajouter les conjoints respectifs et les indispensables sacrifiés, les numéros 2. Voilà pour la distribution. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le diable est dans le détail ». Il couvre principalement la décennie 1980-1990, même si pour comprendre ses débuts, nous évoquerons la création du Front National en 1972 et le rôle d'ordre nouveau dans cette naissance. En 1980, le FN, rappelons-le, ne compte que 280 adhérents. Les premiers succès électoraux viendront dans les années qui suivent, jusqu'à l'affaire du détail en 1987. Mais à chaque fois que le Front National progresse, Jean-Marie Le Pen semble se saborder. Étrange phénomène. Ce n'est pas la seule question que la fiction aborde. La famille Le Pen va connaître des déchirures soudaines, comme l'épisode Pierrette Le Pen et Playboy, une histoire tragicomique qui fleure bon le Dallas à la française. Voilà, nous nous retrouverons après la fiction, bien sûr, pour continuer cette enquête autour du Front National, de son histoire et celle de la famille Le Pen, avec notre invité Dominique Albertini, journaliste politique à Libération, notre partenaire une fois par mois, et spécialiste du Front National et de l'extrême droite.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question.
Jeanne revient.
De François Perrache.
Réalisation Cédric Ossir.
Deuxième épisode, le diable est dans le détail.
Non mais est-ce que
6 millions de morts. Là,
est-ce que vous affirmez. Non, pardon.
J'ai compris, mais.
Non mais 6 millions de morts, comment c'est.
Juifs.
Oui.
Comment osez-vous. Mais comment osez-vous. Vous pouvez vous en faire des cocottes en papier de votre scénario.
Mais c'est vous qui m'avez toujours dit que vous rêviez d'être comédienne, c'est une occasion en or. Ariane, écoutez-moi, cette scène en petite tenue sera juste évoquée dans le film. On verrait évidemment pas...
Sortez. Vous sortez.
Ariane, c'est mon bureau. Ariane, ouvrez.
Et qu'est-ce qui se passe encore, Benjamin?
C'est Ariane qui est très énervée, elle s'est enfermée dans mon bureau. Ariane.
Poussez-vous, laissez-moi faire.
Ariane, c'est Monsieur Poulidor.
Et qu'est-ce qui se passe?
C'est Ariane qui s'est enfermée dans le bureau de votre frère.
Encore? Et qu'est-ce que tu lui as dit?
Rien, c'est juste que... Oh là 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 là!
Vous ne devriez pas boire tant de café, Ariane!
Qu'est-ce qui se passe?
C'est à cause de Monsieur Maglan!
Encore?
Ah, j'ai rien fait, moi, maman, c'est lui!
Mais qu'est-ce que tu lui as dit, Benjamin?
Mais rien, c'est juste que...
Mais maman, vous êtes joué dans son film!
Quoi?
Sans m'en parler!
Si elle joue, ça fera des économies pour la production.
Ah, c'est sûr que vous, sous cet angle...
On ne la paierait pas.
Et il suffirait de modifier un peu son attitude de poste.
Bon. Ariane, c'est moi.
C'est très bien, non? Si Benjamin vous a trouvé un petit rôle, vous avez toujours rêvé d'être actrice.
Oui, actrice, oui, mais pas dans les films, des films. C'est honteux. C'est honteux ce qu'a fait monsieur Benjamin de vous proposer de jouer
Tu lui as proposé de jouer qui? Marion?
Non.
Marine?
Oh non, pour Marine, elle est pas assez.
Mais quel rôle? Tu lui as proposé de jouer qui?
Pierrette.
Quoi? Sans m'en parler.
L'opération Bonne Maman. Là, mais c'est une honte. Oui, moi je vais être actrice, mais jamais je ne jouerai ça.
Elle va tout péter.
Bon, Ariane, écoutez-moi. Vous avez ma parole, on va vous trouver un autre rôle dans le film.
Un rôle qui vous plaira.
Du sur-mesure. Pas Pierrette, promis. Pas Marion, pas Marine.
Oui, mais quel rôle alors?
Ben, je sais pas, moi. Il faudrait lui écrire un petit rôle supplémentaire.
Jeanne d'Arc! Ariane, vous pourriez jouer Jeanne d'Arc!
Quoi?
Jeanne d'Arc?
Non, mais t'es bête, t'es complètement...
Elle s'est calmée, là, non?
Jeanne d'Arc?
Non, si. Ben si, évidemment, bien sûr, oui, Jeanne d'Arc.
Oh putain.
Mais ben oui, c'est une fiction, on peut ajouter le personnage de Jeanne d'Arc, on doit ajouter Jeanne d'Arc, essentiel Jeanne d'Arc, indispensable. Comment on n'y a pas pensé plus tôt, Darius, hein? Maman, qu'est-ce que t'en dis, Jeanne d'Arc, c'est une figure incontournable pour raconter le FN.
Oui, ça vous plairait, Ariane, de jouer Jeanne d'Arc?
Mais maman...
Ah oui, Jeanne d'Arc, il faudrait juste que je me coupe les cheveux au carré peut-être, mais...
Oh, voilà, une petite coupe de cheveux et ou une perruque, et hop.
Mais non.
Et oui, Jean-Marie appelle Jeanne au secours pendant la manif du 1er mai, Jeanne entend son appel et elle redescend sur Terre.
Non.
Jeanne d'Arc redescend sur Terre.
Oui, mais c'est de la fiction, on fait ce qu'on veut. Jeanne redescend sur Terre et elle cherche celui qui l'a appelé et elle rencontre la famille Le Pen qui lui raconte toute sa vie.
Oh putain.
Et Jeanne, ce serait un personnage important dans l'histoire ou juste un petit rôle?
Important, évidemment.
Central.
Essentiel.
C'est un peu à travers Jeanne qu'on comprendrait toute l'histoire des Le Pen.
Oh putain.
Ça me donne une idée. Une idée pour le titre.
Ah non.
Et ça s'appellerait comment?
Jeanne, au secours!
François Aussire, Cédric Perrache et les productions Maglan présentent Jeanne revient.
La véritable histoire de la famille Le Pen.
Bientôt sur vos écrans.
Enchantée. On se fait la bise.
Oh bah.
Il paraît que tout le monde se tutoie et se fait la bise dans le cinéma. Hein? C'est ton premier tournage aussi. Moi, je suis Jeanne d'Arc.
Pardon? Je t'expliquerai. Ariane, je te présente Jean-Marie, qui va jouer Jean-Marie.
En fait, je m'appelle
Ça te dérange pas que je t'appelle Jean-Marie?
Ouais,
je trouve que c'est mieux. Comme ça, t'entres direct dans la peau du personnage, acteur studio. Je suis sûr que tu vas être super dans le rôle. Tout le monde est enthousiaste. D'ailleurs, Darius, viens, s'il te plaît. Je vais te présenter mon frangin. On travaille en petite équipe familiale hyper soudée. Darius, je te présente Jean-Marie, qui va jouer Jean-Marie.
Enchanté.
Enchanté.
Darius, donc. Normalement, je suis l'historien de la famille, mais là, je vais faire la prise de son pendant que Benjamin filme. En tout cas, bienvenue, donc, Jean-Marie.
En fait, Jean-Marie, c'est
bon,
pas
bon. Bon, allez, faut qu'on démarre la répète. Faut profiter qu'il pleuve pas et qu'il fasse jour. Donc, là, juste pour cette première scène, Ariane, je vais te demander de jouer Pierrette.
Non, j'ai dit pas Pierrette. Pas Pierrette.
T'inquiète, on te verra pas. On va juste faire ce qu'on appelle une amorce sur toi. On te filme pas, on te verra à peine de dos avec une perruque. Tu joues juste la silhouette de Pierrette et nous, on ne filme que le visage de Jean-Marie.
La silhouette? Ah. Bon, ok. Parce que moi, je joue Jeanne, hein, pas Pierrette.
Mais quelle Jeanne?
Laisse, il t'explique.
Bon, on s'y met. T'as bien pris l'urne, Jean-Marie?
L'urne? Ah oui, l'urne. Eh ben, oui, je l'ai posée là-bas, là, au pied de l'arbre. Mais elle a vraiment eu lieu, cette scène qu'on va filmer? C'est un peu gros.
Si, elle a eu lieu. J'ai juste un peu réécrit les dialogues, mais elle a eu lieu. Une vraie scène de polar. D'ailleurs, Darius, tu veux bien redonner le contexte de la scène à Jean-Marie et Ariane, s'il te plaît?
Le contexte. Ok. Donc là, la scène qu'on va tourner, c'est un épisode qui précède ce qu'on a appelé plus tard l'opération Bonne Maman. L'opération Bonne Maman, c'est le nom de code qui a été donné à une série de photos dénudées, disons, que Pierrette Le Pen a faites discrètement à Montretout en 87 pour le magazine Playboy.
Oh oui, je m'en souviens, je l'avais acheté.
Ah bon?
Enfin, par curiosité.
Juin 87, gros succès. Playboy a même dû réimprimer plus de 100 000 exemplaires. Mais là, on est 2 ans plus tôt, en 1985-86. L'année d'avant, Pierrette a rencontré un journaliste qui était venu à Montretout pour écrire une biographie de Le Pen. Elle tombe amoureuse du journaliste et elle finit par demander le divorce. Jean-Marie est furieux, évidemment. Procès. Mais Pierrette n'obtient pas de pension alimentaire et doit au contraire verser des dommages et intérêts à son mari. Elle se répand dans la presse contre lui et les trois filles Le Pen se fendent même d'un communiqué en janvier 86 pour soutenir leur père contre leur mère. Bref, la famille se déchire.
Vas-y, abrège, Darius, raconte la scène qu'on va tourner aujourd'hui.
Bah, tu me demandes le contexte, je contextualise. Donc, le divorce se passe mal et il se trouve que Pierrette, en se barrant de Montretout en 84, emporte dans son vanitifère l'œil de verre de secours de Jean-Marie.
Non, c'est pas possible.
Si. Et Jean-Marie, de son côté, retrouve dans un placard de Montretout l'urne funéraire qui contient les cendres de la mère de Pierrette.
Non.
Si.
Et il décide de les échanger.
Non, c'est pas possible, non.
Si.
Mais c'est quoi le lien avec Playboy?
Cet échange de l'œil de verre et de l'urne, il a beaucoup tendu leur rapport au moment du divorce. Et Jean-Marie Le Pen a eu le malheur de dire dans une interview au magazine Playboy qu'il ne voulait pas donner de pension alimentaire à son ex-femme et que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait, je cite... qu'à faire des ménages.
Non.
Si. Et en juin 87, Pierrette, pour se venger, pose en soubrette un plumeau à la main dans le même Playboy.
Oh, c'est génial. Franchement, c'était pas mal la mère Le Pen. Hein.
Mais aujourd'hui, on en rigole, mais les ravages sur les filles Le Pen ont été considérables.
Bah, je me mets à leur place.
Un mois après la publication, elles ont donné ensemble une interview à Paris Match dans laquelle elles disent carrément... Aujourd'hui, après ces photos, nous ne pouvons plus la considérer comme notre mère.
Oh, c'est horrible.
La plaie mettra presque 20 ans à se refermer. Pendant des années, Pierrette n'a pas vu ses filles, n'a pas été invitée au mariage, n'a pas vu ses petits-enfants.
Ah, la pauvre.
Tout ça a démarré avec cet échange entre Pierrette et Jean-Marie.
En réalité, l'échange a été fait par leurs avocats respectifs. Je ne sais plus qui représentait Le Pen, mais ce que je sais, c'est que c'est Gilbert Collard qui était le nouvel avocat de Pierrette et qui est venu, avec l'œil de Le Pen, récupérer l'urne.
Bon, mais nous, pour que ça soit plus spectaculaire, on joue directement l'échange entre Pierrette et Jean-Marie. T'as le texte d'ailleurs? On peut se faire une lecture?
Ben oui, bien sûr. J'y vais. Mais je fais sans imiter Le Pen pour l'instant. Oui. Juste le texte et l'intention, ok?
Oui, oui, vas-y. Essaye de dire le texte comme si tu tenais l'urne devant toi. Et n'oublie pas que Pierrette est de l'autre côté de la clairière. Parle bien fort.
Ok, ok.
Et moi, j'ai quelque chose à jouer?
Non, rien. Tiens, tu te mets là. Yann, tu regardes Jean-Marie et tu te tais.
Ok, super. Je regarde Jean-Marie et je me tais. Super.
Bon, j'y vais. J'y vais, hein. Bon, alors... Pierrette, c'est la guerre. Je te préviens. Désormais, entre nous, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Oh putain.
Ça va pas?
Si, si, t'es super.
Mais... Il a vraiment dit ça?
J'ai un peu réécrit les dialogues.
Et moi, ça va?
Oui, oui, tu bouges pas, toi, Ariane. Tu le regardes et surtout, tu continues à te taire.
Ok, super. Super, je le regarde et je me tais. Comme ça?
Ouais, ouais, parfait. Vas-y, Jean-Marie, on va reprendre toute la réplique, s'il te plaît. Et c'est toi, tu essaies avec la voix de Le Pen, ok?
Ok.
Ok. Oh, pardon. Je le regarde et je me tais. Super.
Attention, tout le monde est prêt? Silence!
On répète, là, Benjamin.
Moteur!
Il n'y a pas de caméra.
Action!
Et Pierrette! C'est la guerre, je te préviens. Désormais, je sais pas. Entre nous, c'est œil pour œil et dent pour dent, Pierrette. N'est-ce pas? Si tu veux revoir ta mère, rends-moi ma prothèse, n'est-ce pas?
Oh putain.
En 86, il y aura des échéances électorales très importantes avec les élections législatives. Si la droite l'emporte, quel rôle est-ce que vous espérez jouer?
La véritable échéance, c'est celle de 88. C'est l'élection présidentielle. Et il appartiendra à la droite nationale de démontrer qu'elle est capable d'obtenir la confiance de la majorité des électeurs nationaux pour pouvoir être capable de battre la gauche au deuxième tour de cette élection.
Mais concrètement, ce que vous espérez, c'est de devenir un appoint indispensable à la droite pour l'obliger à appliquer une partie de votre programme.
Pas du tout. C'est de prendre le pouvoir pour appliquer nos idées et bien sûr au maximum...
Vous savez bien qu'un tel projet est une chimère.
Ah bon? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous en 86 et en 88.
Être pédagogique. C'est quand même pas mal quand les gens comprennent la chronologie. Donc oui, je propose de commencer ce film par le commencement.
par le 5 octobre 1972. On fait une reconstitution de la création du FN à la salle des horticulteurs à Paris. On explique le rôle des uns et des autres, l'influence de Doriot, le rôle d'Alain Robert.
C'était qui, lui, déjà?
Mais c'est pas possible! Mais c'est effrayant! Tu veux faire un film sur le FN et tu sais pas qui est Alain Robert?
Mais écoute, je suis fatigué, c'était la première journée de tournage, c'est beaucoup de stress. Là, je me concentre sur la conduite, donc je sais plus exactement qui est Alain Robert. Je me souviens du nom, mais... Bon, et puis quoi qu'il en soit, je maintiens qu'il faut ouvrir le film sur un truc plus percutant, plus spectaculaire qu'une réunion.
On doit commencer par la création du FN et Alain Robert.
Non, on doit commencer par un truc prenant. La scène d'ouverture, c'est 18 mars 1978, l'assassinat, jamais élucidé, de François Duprat dans l'explosion de sa voiture. Boum! Là, le spectateur se demande, mais qui est ce François Duprat? Et là seulement, flashback. On remonte en 1972, aux origines du FN, et on apprend que ce Duprat était justement le numéro 2 du FN au moment de sa création. On fait juste un flashback pour commencer avec quelque chose de fort. Avec la mort de Duprat, on démarre le film sur un meurtre mystérieux d'un personnage sulfureux.
Sauf qu'on n'a aucune certitude sur les circonstances de sa mort. Il y a plein d'autres personnages, beaucoup moins spectaculaires, mais beaucoup plus importants pour la création du parti.
Et comme qui, par exemple?
Bah, je sais pas, moi, plein, comme... tiens, un nom, au hasard, Franck Timmermans, par exemple, dont tu n'as jamais entendu parler, et qui a complètement réorganisé le parti, juste après la mort de Duprat. Il en a posé toutes les bases. Et il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, qui viennent de partout, de tous les horizons politiques. Tu connais Victor Barthélémy? Non, évidemment. Eh bien, Victor Barthélémy, il est secrétaire général du FN à sa création en 1972. Mais avant, il avait été secrétaire général du PPF de Doriot.
Doriot? Le collabo?
Ouais, le Parti Populaire Français.
Donc, ce Victor Barthélémy, il fait le lien entre Le Pen et Doriot.
Oui, mais avant d'être au PPF, ce même Victor Barthélémy, qui finira au FN, il avait commencé au Parti Communiste.
Ah bon?
Comme Doriot.
Bah, Doriot, il était au Parti Communiste avant de devenir collabo.
Eh oui, ah, c'est compliqué les origines du FN.
Bah, je sais, merci. Mais comme d'habitude, Darius, bien scolaire, bien sage, veut tout prendre dans un ordre chronologique. 1972, création du Front National, gna. Pff, ça va être d'un chiant.
Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par Alain Robert.
Mais arrête avec Alain Robert. Plus personne ne sait qui c'est Alain Robert. Tout le monde s'en fout d'Alain Robert. Arrête de nous gonfler avec Alain Robert.
Mais si tu ne comprends pas le rôle d'Alain Robert, tu ne comprends rien au FN et à sa création.
Bon, bon, ok, allez, t'as gagné, vas-y. Bah, vas-y, raconte, c'était qui ce type?
Alain Robert, c'était le patron d'Ordre Nouveau, qui était un groupuscule dur, qui faisait le coup de poing contre les gauchistes et la police. Il se trouve que pour les législatives de 1973, les mouvements d'extrême droite se cherchaient une vitrine respectable. Il y avait déjà eu deux types qui avaient été contactés pour prendre la présidence du futur nouveau parti et qui avaient refusé. Et donc, Ordre Nouveau est allé chercher Jean-Marie Le Pen.
Le Pen, c'était que le troisième choix.
Ouais. Il avait déjà 44 ans. On n'entendait plus trop parler de lui. Il avait juste été député poujadiste, directeur de campagne de Tixier-Vignancourt en 65. Tixier-Vignancourt, c'était une figure d'extrême droite. Bref, à l'époque, Le Pen, il n'était pas programmé pour devenir le leader du parti. Et il faisait surtout figure de modéré par rapport à Ordre Nouveau. Le Pen, il était juste censé dédiaboliser le mouvement, on pourrait dire, même si on parlait pas comme ça à l'époque.
C'est un comble. Le Pen a commencé en faisant exactement ce qu'il a reproché pendant toute sa carrière à Marine, dédiaboliser l'extrême droite.
Exactement. Et alors qu'il devait être là pour faire tapisserie et qu'il était politiquement minoritaire, Le Pen a réussi à conquérir le FN. Le FNUF, ça s'appelait au début, Front National pour l'Unité Française. Ils n'avaient pas un rond. C'est même Stirbois, qui était imprimeur, et qui est devenu après un cadre important du parti, qui a offert les premières affiches. Ils n'avaient même pas de quoi se faire à dessiner un logo. Ils ont pompé la flamme du MSI, un mouvement néo-facho italien, et ils ont juste changé les couleurs.
La flamme du FN, c'est un logo de parti étranger au départ. C'est marrant.
Marrant? C'est la grande internationale fasciste. Jean-Marie et Marine se sont toujours exposés avec des groupes ultra-limites quand ils vont à l'étranger. Et aujourd'hui, la petite dernière, Marion, elle est en couple avec un militant italien de la Ligue du Nord. Au Parlement européen, tout ça va faire un bon gros groupe identitaire.
Et ensuite?
Quoi, ensuite?
Comment il a pris le FN, Le Pen, s'il était minoritaire?
Ah, tu vois que ça t'intéresse. En gros, à la création, en 72, le FN, c'est la réunion de deux mouvances. D'un côté, Ordre Nouveau, dirigé par...
Alain Robert.
Lui-même, Ordre Nouveau, qui a fourni le gros des troupes, donc. Et de l'autre côté, les nationaux, dirigé par Le Pen, qui est officiellement président du nouveau parti, mais avec beaucoup moins de monde. Quelques ex-poujadistes, des déçus de l'Algérie française et autres. Dès le départ, c'est un marché de dupes, puisque c'est le courant minoritaire qui a la présidence. Je te la fais courte, mais il y a des tensions de plus en plus fortes entre les deux courants. Jusqu'au premier congrès du parti en juin 73, où là,
c'est la crise ouverte entre les lepénistes et Ordre Nouveau. Sauf que dans la nuit du 21 juin 1973, Ordre Nouveau participe à des affrontements violents contre la Ligue communiste. Et le gouvernement décide de dissoudre les deux mouvements. Exit Ordre Nouveau.
Exit Alain Robert. Et Le Pen a le champ libre.
Presque. Parce que Alain Robert va se défendre. Il veut s'approprier la paternité idéologique du FN.
Comme Maigret, 25 ans plus tard, quand il disait que c'est lui qui avait conçu le programme politique du parti.
Exact. Et tout ça commence en 1973, même pas un an après la création du FN. Alain Robert monte une revue qui s'appelle Faire Front et qui utilise le logo du FN. C'est le premier procès pour la possession de la marque Front National. Et c'est Le Pen qui gagne. La justice lui donne raison.
Comme contre Maigret 25 ans plus tard.
Si la justice lui avait donné tort, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de Le Pen.
Oh, c'est fou. Lui, qui se prétend anti-système, il doit son ascension à une décision gouvernementale d'interdire son opposant, puis à une décision de justice.
Ouais. Bah, parfois la démocratie lutte contre elle-même. Mais on ne pouvait pas deviner ce qu'allait devenir Le Pen. Il ne représentait pas encore une menace. Le FN a débuté tout petit. Ils ont fait leur première réunion devant 70 personnes. À la présidentielle de 1974, Le Pen a récolté 0,75% des voix. 0,75%.
On peut dire qu'en un demi-siècle, la petite entreprise s'est bien développée.
Mais ça a encore pris beaucoup de temps avant qu'ils arrivent aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, le FN revendique en gros 80 000 adhérents.
Philippot, en quittant le parti, a dit que la vérité était plutôt deux fois moins.
Ok. Bon, alors admettons, aujourd'hui, hypothèse basse, 40 000 membres. 40 000 membres à jour de cotisation au FN. Tu sais combien ils avaient d'adhérents en 1980?
Combien d'adhérents au FN en 1980? Je sais pas, 20 000 10 000
ouais.
5 000
Pour l'année 1980, après presque 10 ans d'existence, le FN comptait officiellement au niveau national 280 adhérents.
On peut te voir ? Pour trancher un débat avec Benji.
Entrez. Alors, ça s'est passé comment, ce premier jour ? Il est comment, Jean-Marie ?
Nul.
Formidable. Il est formidable. La scène de l'échange était super.
Mais on n'en fait pas un peu trop sur Pierrette et le divorce ? On ne devrait pas se concentrer sur la politique ?
Ah non ! Là-dessus, je suis d'accord avec Benji. Au FN, c'est hyper important de décortiquer le lien entre la vie du parti et la vie de famille. Et en particulier, les conséquences politiques indirectes du divorce avec Pierrette et l'année 87 sont hyper intéressantes pour ça.
Pourquoi 87? Ah, le détail.
Oui.
Et demain matin, on enregistre une reconstitution de l'interview que Le Pen a donnée à la radio.
Le détail.
13 septembre 1987, grand jury RTL Le Monde.
Le Pen est en pleine ascension. Il joue la dédiabolisation à fond.
Il a même enlevé son bandeau sur l'œil au début des années 80. Le FN vient de remporter succès électoraux sur succès électoraux. Les municipales de 83, où ils ont failli rafler la mairie de Dreux à quelques voix près. Puis la première grosse percée nationale avec les européennes de 84.
84, c'est aussi l'année de création de SOS Racisme, qui se développe contre le FN et réciproquement.
Quoi qu'il en soit, Jean-Marie est élu député européen pour la première fois et il le restera presque sans interruption. En 1985, nouvelle poussée au cantonal et aux législatives de 86, triomphe, 35 députés.
Sous l'étiquette Front National, Rassemblement National. Déjà, Marine, elle n'a rien inventé.
35 députés. Merci Mitterrand, merci la proportionnelle.
C'est la démocratie.
Bref, en 87, le FN a le vent en poupe. La présidentielle de 88 se présente comme la revanche de 81, où Le Pen n'avait pas obtenu ses 500 signatures.
Oui, je m'en souviens, en 81. Il avait même appelé à voter Jeanne d'Arc pour le second tour. Ah, on peut lui reconnaître de la constance sur certains sujets.
Et c'est là que la famille fait tout voler en éclats. Entre 84 et 87, Pierrette part avec son journaliste. Procès, divorce, engueulade par presse interposée, échange de l'urne contre l'œil de verre, et l'apothéose à l'été 87, Pierrette fait le ménage dans Playboy. À la rentrée de septembre 87, première grosse interview sur RTL, Jean-Marie se crache, tout seul, en plein vol, à quelques mois de la présidentielle.
Ouais, c'est un détail qui lui aura coûté cher.
Mais c'est pas un accident isolé, je pense. C'est un mode de fonctionnement chez lui. Quand tu regardes sur toute sa carrière, dès que le FN a connu des succès ou a été sur le point de gagner des échéances politiques, c'est toujours là que Le Pen a sorti ses plus grosses conneries. Avec souvent derrière un problème familial.
À ce niveau, effectivement, ça tient du sabotage.
Mais exactement comme Marine face à Macron. On pensait tous qu'elle, elle voulait le pouvoir, mais c'est tirer une balle dans le pied, comme papa.
Bah, tiens, regarde, c'est amusant ce que tu dis ça, parce que j'étais en train de regarder les meilleurs moments du débat du second tour de 2017, justement. Mmh. Je me passais en boucle le moment où elle part en vrille.
Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont
parti.
Sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce
je parle du parti de l'extrême.
Vas-y, remets.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont sur les réseaux sociaux.
Mais on regarde Macron pendant qu'elle lui parle.
Là, il doit se dire qu'il a gagné. La stratégie « c'est moi ou le diable », ça a fini par payer. Mais il ne devait pas s'attendre à ce qu'elle soit si nulle.
Allez, une petite dernière, pour le plaisir.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont
parti.
Sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti.
Qu'est-ce qu'il lui a pris à Marine? Elle a sniffé de la poudre de perlimpinpin ou quoi?
Elle a fait comme son père, du sabordage.
Inconscient, sans doute.
À ce propos, j'ai rendez-vous tout à l'heure dans un café avec une psy pour qu'elle me parle de tout ça.
Une psy?
Mais pas n'importe quelle psy, une spécialiste des Le Pen.
Ah bon, ça existe? Ah, parce que c'est une spécialité psychiatrique, l'extrême droite?
En fait, c'est elle qui a été désignée d'office quand les juges ont demandé une expertise psychiatrique de Marine, au moment où elle a été mise en examen.
Ah oui, l'histoire des emplois fictifs au Parlement européen?
Non, l'examen psy, c'était pour une autre mise en examen. Ça remonte à décembre 2015, quand elle a publié des photos de Daesh sur son compte Twitter.
Mais elle a refusé, non, cette expertise?
Évidemment, elle a crié au scandale politique, alors que c'est juste la procédure normale pour tout le monde. Donc, cette psy, elle n'a jamais rencontré Marine, mais elle s'est passionnée pour la famille Le Pen.
Il y a de quoi faire, hein. C'est sûr qu'ils auraient besoin d'une bonne thérapie familiale.
Ce qui est frappant, et je pense que c'est souvent ce qu'on a remarqué chez vous, c'est qu'on vous dit quelque chose, et ça n'a strictement aucun effet sur vous. Vous avez effectivement la conviction, comme disent les Italiens, d'avoir sempre ragione, toujours raison. C'est-à-dire que vous êtes un mur, vous êtes verrouillé de l'intérieur comme une prison. Et quoi qu'on vous dise, vous seriez capable d'aller, je suis sûr, dans la Bibliothèque nationale, de regarder des millions de livres et de dire, avec cette assurance que vous venez d'avoir, des livres, où est-ce qu'il y a des livres? Moi, je n'en vois pas. Et je me demande donc comment vous faites, effectivement, pour que rien de ce que les autres vous disent, à ce point, vous touche un tant soit peu.
Et votre méthode, elle est évidente aux yeux de tous, ça s'appelle le parti pris. Vous m'avez exprimé votre vérité, j'ai exprimé la mienne, il n'est pas étonnant qu'elle soit en discordance, et ceci vous choque profondément, car vous avez l'habitude d'avoir affaire à des malades qui viennent vous consulter, et qui pensent que vous êtes un gourou, et que vous devez les diriger. Eh bien, je ne suis pas de vos malades, et je n'ai pas besoin des conseils d'un psychanalyste.
Pas pu en voir moi-même. Moi-même en voir. Donc, je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié la question, c'est pas. Je n'ai pas étudié spécialement la question.
T'es prêt? T'es passé au maquillage?
Ben oui, oui, j'arrive. Je finis juste à prendre mes répliques, là.
Ok, on t'attend sur le plateau. Hein. Très vite, s'il te plaît.
Oui, oui. Bon, alors. Je n'ai pas étudié la question, c'est pas... Les chants, ces adverbes, là... je n'ai pas étudié spécialement la question, mais... Enfin, je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions.
Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et quelques autres qui...
Non mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Ah, vous pouvez me repasser la dernière phrase?
Oui, pourquoi?
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Vous entendez? Intéressant ce n'est-ce pas final.
Ah, oui, c'est la marque de fabrique stylistique de Le Pen, ça dénote une certaine élégance, une maîtrise de la langue. Il a toujours eu un vocabulaire très riche, très varié.
Oui, bien sûr. À part Nicolas Sarkozy, peut-être, tous les présidents de la République ont montré leur goût et leur maîtrise de la langue française. Le premier des Français se doit de parler le plus beau des Français. Mais dans le « n'est-ce pas » de Jean-Marie Le Pen, j'entends autre chose. Je n'entends pas une question, même rhétorique évidemment. J'entends une affirmation. J'entends « ce n'est pas ». Ce n'est pas. Voilà une parfaite expression inconsciente du négationnisme. Et pas uniquement au plan historique, parce que ce « n'est-ce pas » ressort tout le temps, à tout propos. Et que nie donc Jean-Marie Le Pen lorsqu'il répète sans cesse « n'est-ce pas ?» On peut dire qu'il finit par se nier lui-même.
Ou par nier ce qu'il représente.
Vous me disiez par exemple qu'il avait commencé en s'intéressant aux anarchistes, alors qu'il a passé sa vie à vouloir accéder au pouvoir, ou prétendre vouloir y accéder. Et comme par hasard, il dit des horreurs pour se saborder à chaque fois qu'il s'approche de la respectabilité. Paradoxe ! Il est plein de paradoxes. Le patriarche, viril, mais qui se donne une pucelle pour étendard et adoube sa fille pour sa succession, tout en lui mettant des bâtons dans les roues. Paradoxe ! Le candidat du peuple, qui paye l'ISF quand ça existait encore, qui vit dans un manoir somptueux sur sa colline à Montretout, paradoxe. Intéressant d'ailleurs d'un point de vue onomastique. Onomastique, c'est l'analyse de la signification des noms propres. Montretout. Montretout, à première vue, si j'ose dire, on pense à de l'exhibitionnisme. Mais c'est le contraire. La pire chose qu'il soit arrivé à Jean-Marie Le Pen, ça a été l'exhibition de sa femme. Montretout, on s'y cache, derrière des murs, derrière des grilles, protégé par des chiens, et pas n'importe lesquels, hein, les plus dangereux, les Doberman. Montretout, c'est le contraire de l'exhibitionnisme. C'est pas le lieu où on montre tout, c'est le lieu qui montre tout, d'où on peut voir tout ce qu'il y a à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la famille, du parti, du pays.
Ah, les étrangers, hein, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Donc, Montretout, c'est le sommet de la colline où on peut voir tout Paris en étant justement à l'abri des regards. Il faut voir et surveiller plutôt qu'être vu. Vous devriez lire ce bouquin de Lacan, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité.
La paranoïa ? Ah, j'y avais pas pensé. C'est vrai que Le Pen, il a beaucoup crié au complot, à la traîtrise.
Et au-delà de sa personne, Montretout, c'est le siège du pouvoir et de la famille FN-Le Pen. Les deux se confondent. Et si Montretout est une figure de la paranoïa, alors ça donne une grille de lecture pas inintéressante pour comprendre certains aspects de la vie politique du Front National.
Vous pensez à quoi ou à qui ?
À qui ? Mais à tous. Maigret, Gollnisch, Lang, Philippot, il n'y a rien qui vous frappe ?
Ils ont tous été numéro 2 du parti.
Oui, et ils ont tous été éliminés.
C'était
Jeanne revient.
La véritable histoire de la famille Le Pen.
De François Perrache. Deuxième épisode.
Avec
Christine Gagneux,
Éric Berger,
Elios Noël,
Clémentine Verdier,
Gabriel Ledose,
Élise Caron
et Philippe Duquesne.
Bruitage, Bertrand Amiel.
Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmond, Cédric Chatelus.
Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux.
Réalisation, Cédric Ossir.
Dans le sang, il y a un œdème qui me gêne. J'écris à mère pour me faire taire, pour me faire taire de toi à moi. Je ne sais pas aimer sans pleurs, tordu de peur, ce fan des heures. Oh, 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 je griffe les murs pour me faire les ongles. Je griffe les murs pour me faire les ongles. Là, je suis là de tous ces dîners d'amis. Tout le monde s'embrasse. Quelle folie cette comédie. Chasseur de frimes, magnanime. Oh. électrique sur mon œil, dans le ventre. Il faut bouger, se laver, glisser sur la descente.
Faire sensible, la fiction.
Pierrette Le Pen sera-t-elle celle par qui le scandale arrive? En tout cas, ce matin, il vous suffit d'acheter Playboy pour apprécier le corps du délit. Sur 8 photos, grand format, couleur et sur papier glacé, avec pour tout vêtement un tablier de soubrette, elle étale sans complexe ses avantages, convaincant d'ailleurs. Et au téléphone, lorsque Olivier Muller l'a appelée tout à l'heure, elle a mis son cœur à nu. Écoutez.
C'est moi qui ai sollicité Playboy, puisque M. Le Pen me disait de faire les ménages, autant les faire en Playboy. C'est pas véritablement un règlement de compte, c'est une réponse du berger à la bergère. Monsieur Le Pen oublie facilement que depuis 25 ans, je l'ai soutenu envers et contre tout le monde. Et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de gens contre lui. Et qu'en prime, je lui ai donné 3 filles. Alors, il l'oublie, il n'est pas très gentil homme. Je peux vous dire simplement qu'il y a beaucoup de membres du Front National qui me demandent de tempérer les abus de Monsieur Le Pen. Enfin, je n'y ai pas pensé exprès. Vous savez, les divorces, ça doit se passer normalement. Mais sauf avec Le Pen, ça se passe pas normalement. Il était temps de donner une leçon à M. Le Pen. Quand il posera peut-être cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 2. Notre invité, Dominique Albertini, journaliste politique à Libération et spécialiste du Front National et de l'extrême droite. Bonjour Dominique Albertini.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à Libération, notre journal partenaire. Vous êtes co-auteur avec David Doucet de l'ouvrage intitulé « Histoire du Front National » aux éditions Talendier, collection texto en 2014, et du livre « La fachosphère » chez Flammarion en 2016. Alors, on va procéder chronologiquement. Hein. On revient d'abord en 72, date de la création du Front National par Jean-Marie Le Pen. Mais il n'est pas seul. Hein. Par exemple, Victor Barthélémy, secrétaire général du Front National à sa création, est là. Ça se passe avec lui et les anciens d'Ordre Nouveau, comme Alain Robert, des nostalgiques de la collaboration, il faut bien le dire.
Oui, ça nous rappelle que le Front National du départ est une coalition assez improbable entre des gens qui ne relèvent ni des mêmes générations, ni des mêmes horizons politiques. Victor Barthélémy est un ancien collaborateur, c'est un ancien membre du Parti Populaire Français de Doriot, il était avant ça membre du Parti Communiste, c'est un vieil homme déjà à l'époque, et il va apporter au Front National une science de l'organisation qu'il a acquise au cours de ses expériences passées. Alain Robert, dont vous parlez, est un jeune homme. C'est le leader charismatique du mouvement Ordre Nouveau, qui est un mouvement étudiant, qui est un mouvement néo-fasciste, nationaliste, révolutionnaire. Ce sont des jeunes en blouson, si on veut, qui font le coup de poing dans les rues, dans le quartier latin
Assas,
principalement.
Assas,
Saint-Germain, Le quartier latin et leur territoire qu'ils disputent déjà aux troupes de l'extrême gauche. Et donc, voilà, ni la même génération, ni évidemment les mêmes expériences.
Mais une filiation.
Une filiation, si on veut, on peut imaginer qu'il y a eu entre un Victor Barthélémy et un Alain Robert une forme de transmission, que les uns aient raconté des choses aux autres. Mais voilà, on voit bien qu'on a affaire à un conglomérat de gens dont il n'était pas évident qu'ils se retrouvent, qu'ils travaillent ensemble et qui collaborent à, si je puis dire, à une entreprise électorale, le Front National.
Il y a également François Duprat, oui. Dont on a parlé un peu déjà la semaine dernière. Il est important, il est numéro 2 là, au début, hein, en 72, théoricien de cette extrême droite. Il meurt dans un accident en 78, sa voiture explose, affaire jamais élucidée. C'est quand même une dimension particulière dans la vie politique démocratique française.
Oui, c'est l'un de ces personnages troubles qui font l'intérêt des premières années du Front National. François Duprat est quelqu'un qui est passé par différents groupuscules d'extrême droite. C'est l'un des pionniers du négationnisme en France. C'est un fasciste revendiqué, le terme ne lui déplaisait pas. Et il meurt dans les circonstances que vous avez décrites, jamais expliquées. Et voilà, le parcours du personnage fait que toutes sortes d'hypothèses ont surgi. On a parlé des services secrets israéliens, on a parlé de gens qu'il aurait fait chanter, on a parlé de gens sur lesquels il aurait détenu des dossiers. Il se vantait d'être très au fait du financement de la mouvance par les milieux patronaux.
C'était une machine à fantasmes aussi.
C'était une
ça,
machine hein. à fantasmes dans tous les sens du terme. C'était un mythomane, c'était un indicateur de la police. Il s'était attiré un nombre extraordinaire d'ennemis. Voilà, on mesure bien avec ce personnage à quel point le Front National de l'époque n'a encore rien à voir
avec la vie démocratique classique.
Avec la vie démocratique classique.
Et d'ailleurs, Frank Timmermans, alors c'est le dernier, on va pas faire toute la galerie de personnages, mais celui-là est important également. En 79, donc après la mort de Duprat, il apparaît, il réorganise tout le parti. Et que fait Jean-Marie Le Pen à ce moment-là? Alors, Timmermans, c'est un mot d'abord.
Oui, Timmermans est l'une de ces personnes qui, à l'époque, veulent croire qu'il est possible d'organiser ce parti qui ne l'est pas du tout, qui est au fond encore un groupuscule. Et donc, qui le fait dans des conditions de dénuement matériel et humain qu'on imagine mal aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là, est bien sûr le président du Front National. À l'époque dont nous parlons, la fin des années 70, il faut le redire, le Front National est un groupuscule. Le nombre de ses adhérents se compte pas plus qu'en centaines, et Jean-Marie Le Pen, selon certains témoins de l'époque d'ailleurs, n'est pas loin de s'en désintéresser, et en tout cas n'exerce sur lui qu'une tutelle distraite.
Alors finalement, le parti quand même réussit à trouver des financements. Il prend son logo au MSI, le mouvement d'extrême droite italien. Pour le reste, comment ça s'organise?
Et il emprunte le logo, il fait venir d'Italie tout un stock d'affiches. C'est très pratique, comme le logo elle-même, il suffit de changer les couleurs de la flamme qui est dessus et vous avez une affiche très présentable pour le Front National.
Du vert blanc rouge au bleu blanc rouge.
Exactement. Alors, pour la petite histoire, la flamme du MSI devenue celle du Front National est une référence à la flamme mussolinienne.
Oui. Hein,
donc il y a une filiation aussi. Et alors, quant aux moyens, alors déjà, il faut commencer par dire qu'ils sont extrêmement, extrêmement maigres. Un petit nombre de cotisations, un petit nombre de dons, énormément d'huile de coude, de volontariat. Alors, la fin des années 70 est une époque où Jean-Marie Le Pen a déjà hérité de la fortune d'Hubert Lambert, le cimentier, dans les conditions un peu suspectes qu'on connaît. Ce qui est établi, c'est qu'il en a très peu fait profiter son parti. Il a toujours considéré que c'était un héritage personnel, ce qui n'était pas forcément l'intention initiale d'Hubert Lambert. Mais donc, il n'y a pas eu ruissellement de la fortune de Jean-Marie Le Pen sur le Front National, et donc c'est un parti qui tourne à presque rien.
Alors, il y a le tournant, mais on y reviendra. C'est important, le tournant, la personne électorale du Front National, avec Dreux notamment, au début des années 80, percée électorale, donc installation de Jean-Marie Le Pen et puis de la famille Le Pen dans le paysage politique français. Et on en arrive à cette famille dont Jean-Marie, Pierrette et les trois filles, Yann, Marie-Caroline et Marine. Comment vit cette famille à cette époque? Alors ces femmes qu'on connaît maintenant étaient des jeunes filles à l'époque, voire ados pour ce qui concerne Marine à l'époque. Bon, comment vit cette famille? Quelles sont ses relations à ce moment-là?
Alors, c'est une famille, déjà, il y a une césure importante dans la vie de cette famille, c'est l'héritage Lambert dont on parle, qui fait passer cette famille de la vie d'une vie petite bourgeoise à une vie de riche. Ils emménagent dans le manoir de Montretout, ils sont à la tête d'une fortune considérable. C'est une famille qui, contrairement à l'image qu'on pourrait se faire de la famille archétypale de l'extrême droite, très conservatrice, c'est pas du tout ça. Jean-Marie Le Pen et son épouse Pierrette sont des fêtards, sont des noceurs. Ils entretiennent un vaste réseau de relations. Ils aiment la fête, ils aiment les sorties, on parade chez les Le Pen. Et les filles grandissent dans cette atmosphère-là, elles évoqueront plus tard parfois le sentiment d'avoir été peut-être un peu négligées par des parents tout à leur fortune nouvelle, tout à leur éclat, et dont elles étaient un peu spectatrices. On peut dire qu'elles en ont à l'époque souffert, comme elles souffriront ensuite du divorce évidemment de leurs parents.
Et on y reviendra dans 3 minutes, Dominique Albertini.
le seul vrai boss ici-bas. C'est qui? C'est moi. J'ai dit, on m'obéit, c'est comme ça. Merci, tais-toi.
Proposer le plus mauvais jeu de mots de la semaine. Chez Le Pen, on montre tout. On montre tout, et notamment l'intimité familiale. Et je pense à l'affaire Pierrette Le Pen, ses photos dans Playboy de la dame, provoquent de graves réactions. La famille se déchire et les filles choisissent le père. En plus d'un drame politique, c'est réellement un drame familial et c'est aussi un drame de l'impudeur. Bon, rappelons quand même en deux mots l'affaire et puis voir comment les Le Pen s'en sont sortis, parce que c'était quand même l'étalage.
Puis Pierrette Le Pen quitte son mari pour un journaliste qui était de passage à Montretout pour faire une biographie de Jean-Marie Le Pen. Elle finit par partir avec lui. Une crise familiale s'ensuit. Jean-Marie Le Pen coupe les vivres à son épouse, expliquant que celle-ci, après tout, n'a qu'à faire des ménages. Elle le prend au mot et pose en couverture de Playboy, habillée en soubrette, dans une position suggestive. On imagine le sentiment d'humiliation qui s'empare de Jean-Marie Le Pen et de ses filles. Et en plus, Pierrette Le Pen l'assume.
Ah oui, on l'a entendu,
voilà. Et ce qui montre que elle sait précisément où taper. On touche chez Jean-Marie Le Pen à la virilité du personnage, au sentiment de propriété qu'il pouvait avoir, ou en tout cas, voilà. On imagine que.
Et sur la place publique,
parfaitement au point
tout,
de la psychologie de son époux.
Bien sûr.
En effet, c'est fait pour maximiser le dommage. Et alors, il y a la dimension intime et personnelle. Vous rappelez que Jean-Marie Le Pen, enfin, les filles de Jean-Marie Le Pen rédigent une lettre plus ou moins spontanée dans laquelle elles se déclarent solidaires de leur père plutôt que de leur mère. Pierrette Le Pen, dans les années qui suivront, aura aussi des interventions beaucoup plus directement politiques et qui tendront toutes à présenter Jean-Marie Le Pen comme un personnage extrême, aussi bien dans son tempérament que dans ses opinions politiques. Donc elle contribuera aussi au procès fait à Jean-Marie Le Pen de représenter quelque chose d'inacceptable sur le plan démocratique.
Alors, arrive en 87, donc après plusieurs années de succès électoraux, comme en 1985 la poussée au cantonal, 1986 le triomphe aux législatives, avec 35 députés élus à la proportionnelle, hein, quand même. Donc là, le FN existe, il s'installe, on pourrait penser que, là, ça y est, il est sur une rampe de lancement. Pourtant, il y a ce dérapage incroyable, et je trouve d'ailleurs que le mot dérapage est faible, hein, le détail de l'histoire, on connaît justement cette histoire, expliquez-la nous et comment elle commence et quelles en sont les conséquences réelles.
C'est sur RTL, me semble-t-il. Jean-Marie Le Pen intervient un jour de septembre 87 au Grand Jury. Mmh. Il est questionné sur les thèses négationnistes d'un universitaire du nom d'Henri Roque, je crois. On lui demande ce qu'il en pense et s'ensuit un enchaînement de questions dans lesquelles, d'ailleurs, il semble un peu se noyer dans ses propres propos. C'est un moment assez curieux. Les témoins de la scène le voient un peu, pas à son aise, un peu bizarre. Et donc, on sait qu'il qualifie les chambres à gaz de point de détail de la Seconde Guerre mondiale. La suite de l'échange montre aussi qu'il semble remettre en cause et le nombre et la façon dont ces gens sont morts durant le conflit.
Ça s'appelle le négationnisme.
Cet appel du négationnisme, il déclare ne pas vouloir se prononcer, ne peut pas être certain, qu'il faut laisser les historiens débattre de tout cela. Enfin, voilà, il en fait non pas une vérité, mais quelque chose d'un peu relatif. Et c'est un moment absolument capital dans la vie politique de Jean-Marie Le Pen. Tout change à ce moment-là. Ne pas en conclure qu'avant cet épisode-là, il était considéré comme absolument fréquentable par tout le monde. Mmh. Mais après, quelque chose est définitivement brisé. Il est définitivement exclu par toutes les autres forces politiques du champ démocratique. Et c'est quelque chose qui le suivra toute sa carrière.
Et on se pose la question, on se dit, mais comment en est-il arrivé à dire cela? Il a dû y penser, il a dû penser aux conséquences. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser un homme public d'importance, parce qu'à ce moment-là, il est important. Oui. C'est l'un des grands personnages de la vie politique française. Oui. Qu'est-ce qui peut le pousser à dire ça?
C'est d'autant plus curieux que dans les temps qui précédaient, une série de tentatives de lui et d'autres membres du Front National avaient été faites pour le rapproché de la communauté juive. Il avait rencontré des représentants du Congrès juif mondial, il était prévu d'organiser un voyage en Israël, et donc effectivement incompréhensible, semble-t-il à l'époque, qu'il se livre à ce genre de déclaration. Il faudrait sonder le cœur et l'âme de ce qu'il était à ce moment-là pour savoir ce qui le pousse à... La meilleure hypothèse est qu'il dit ce qu'il pense. C'est que sincèrement, Jean-Marie Le Pen n'est pas acquis à ce qu'on sait
alors
aujourd'hui.
C'est pas la politique, parce que l'art de la politique, c'est aussi de dire, pas forcément ce qu'on ne pense pas, mais ils mettent les formes, c'est la rhétorique politique. Il est hors champ, là, de la rhétorique classique.
Oui, il le sait. Il refuse par la suite toujours de revenir sur ses propos, et certains de ses proches à l'époque l'entendent dire que s'il ne revient pas sur ses propos, c'est qu'il sait qu'en faisant cela, il perdrait aussi des partisans. Et sans doute par une espèce de fierté mal placée et sans doute aussi par profonde conviction d'avoir exprimé une vérité.
Donc on est là à la fois dans une volonté de conquérir le pouvoir, enfin officiellement, vous vous présentez à une présidentielle, c'est pas pour témoigner. Dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ça l'a même emmené au deuxième tour. Donc il y a la volonté de suivre les chemins électoraux de la démocratie et en même temps d'être à côté. C'est ça que ça dit aussi peut-être,
de ne pas vouloir être dedans. Mais ça, c'est ce qui est passionnant dans cet épisode-là, c'est qu'il y a, c'est une tension qui résume, presque l'histoire du Front National. On peut la lire à travers cette espèce de tension permanente, de vouloir s'intégrer au système, de le subvertir de l'intérieur, de prendre le pouvoir par des voies démocratiques. Le Front National, c'est aussi l'extrême droite qui essaie de prendre le pouvoir par l'élection. C'est quand même un projet initial qu'il faut souligner. Et à la fois, le sentiment que rentrer dans le système, s'y intégrer, c'est déjà trahir quelque chose. L'histoire du FN, c'est ce déchirement.
Et est-ce que c'est génétique, ça? Parce que Marine Le Pen, lors du débat avec Emmanuel Macron, alors c'est beaucoup plus près de nous, c'est aussi un dérapage. Parce que c'est là où elle est vraiment très mauvaise, c'est ce jour-là, c'est le jour où il ne faut pas se louper. Quoi. Donc ça encore, c'est...
On peut le lire sur plusieurs plans. Sur le plan personnel, une forme de légèreté, d'inconséquence, de dilettantisme, qui est aussi la marque du Front National, parti peu professionnel dans la formation de ses cadres, dans son expression publique. Cette idée que on est... Peu importe, on y va un peu à la hussarde et évidemment à un certain niveau de la compétition politique, ça ne passe pas. Et puis l'idée, au fond, que une partie du succès repose sur le fait qu'on se moque des codes du système, comme ils disent. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, Marine Le Pen est persuadée d'avoir une illumination géniale, d'avoir subverti les codes du jeu médiatique. Et on voit en réalité que sur ce coup, les codes ont été plus forts
qu'elle. Ça s'entend contre elle, mais probablement que ça lui a coûté beaucoup de points lors du scrutin du deuxième tour. Hein.
Beaucoup de points, et puis une perte de confiance énorme en interne. Énormément de gens qui se rendent compte au Front National que ce n'est peut-être pas avec elle qu'ils gagneront, ça, peut-être jamais.
C'est pas, peut-être pas bon cheval, si j'ose m'exprimer ainsi. Dominique Albertini, merci pour toutes ces précisions, et on se retrouve vendredi prochain pour le troisième épisode de notre série. Alors, ce sera autour des numéros 2 maudits du Front National, et sous le titre, c'est amusant, Bruno Cru, Bruno Cuit. Bruno Maigret, non ? Ben oui, c'est sûr, c'est Bruno Maigret. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jeanne revient, épisode 2, Le Diable est dans le détail. Une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Niro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Benjamin Rogeret.